Bien, donc je vais démarrer ce cinquième cours. Donc ce cours et le prochain vont être consacrés aux diatomées. Donc il y aura une première partie de cours consacrée, je dirais, à des aspects un petit peu plus descriptifs autour des diatomées. Et le prochain cours sera centré sur l'utilisation finalement des diatomées par les chimistes des matériaux pour élaborer des nanomatériaux ou des matériaux à structure hiérarchique. Vous verrez un certain nombre d'exemples. Donc tout d'abord, je vous rappelle la distribution des principaux éléments sur Terre. Vous voyez que, c'est ce que je vous disais dans le dernier cours, le silice et l'oxygène sont quand même des composants largement majoritaires. Et si vous regardez les autres éléments, aluminium, fer, calcium, le carbone, vous voyez, c'est 0,1%. Alors maintenant, si on regarde cela sous un autre angle, c'est-à-dire sous l'angle des biomatériaux de la nature, on s'aperçoit que finalement, ça reste sur un nombre d'éléments relativement limité, en particulier des combinaisons qui utilisent des composés avec une certaine ionicité, carbonate de calcium, typiquement la craie, des phosphates également, phosphates de calcium. Plus ou moins substitués, qui donnent lieu à la naissance des apatites hein, dans l'os. Également, pour certains éléments comme le fer, il y a beaucoup de biomatériaux, en particulier à base de nanoparticules d'oxyde de fer, dans certaines, je dirais, bactéries, dont je vous parlerai l'année prochaine. Mais, à nouveau, bon, la silice sous toutes ses formes, est un composant qui, en quantité, est très important au niveau de la Terre. Alors, il y a toujours des structures, en fait, de biomatériaux et de systèmes du monde biologique qui font rêver les chimistes, à cause, en fait, d'une part des aspects esthétiques et également des modes de construction. Vous voyez, ce sont typiquement des constructions hiérarchiques qui sont basées sur des agrégats d'agrégats de cristaux. Et bon, j'avais fait un cours il y a 2 ans là-dessus. Mais c'était simplement pour vous rappeler la beauté finalement de ces objets-là. Alors ces biomatériaux hybrides, en fait, qui fascinent les chimistes, bon, c'est ce que je vous disais, utilisent les éléments, je dirais, les plus abondants que l'on trouve, et typiquement des carbonates ou des phosphates, mais également de la silice que l'on retrouve dans de nombreuses éponges, ou également dans les radiolaires. Alors si je me focalise en fait sur les composés à base de silice, donc vous avez les fameuses radiolaires qui ont des structures et des images qui sont absolument superbes. Il y a également les chrysophysées. Et puis il y a une catégorie de microalgues, d'algues phytoplanctoniques qui sont les diatomées, en fait, dont le nom, je dirais, est en fait Bacilla rhyophysae. Et je vous expliquerai pourquoi finalement on les appelle diatomées. Alors où les trouve-t-on? En fait, la diatomée est associée à la notion de milieu humide, d'eau. C'est-à-dire qu'on les trouve aussi bien dans les étangs, dans les rivières, donc en eau douce, dans des eaux salées également, la mer, ou des eaux saumâtres ou limpides, ou même sur des terres qui ne sont pas inondées, je dirais, mais qui sont simplement humides. Alors, comment retrouver des diatomées? Je dirais que ça va dépendre de où est-ce que vous passez vos vacances. Si vous êtes plutôt, je dirais, à l'intérieur des terres, près de rivières ou au bord de la mer, alors typiquement, les diatomées, ça se trouve en milieu, je dirais, d'eau douce, sur ces algues brunes, vous voyez, qui recouvrent les cailloux, là. Donc, en fait, tout ça, c'est finalement des colonies de diatomées. Donc, il suffit de gratter délicatement le haut des pierres et de mettre ça sous un microscope électronique, et je vous montre, ou un microscope optique déjà de bonne résolution pour observer finalement ces objets-là. Mais également, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, elles existent, elles vivent également dans les milieux salés, et c'est une grande majorité qui vivent en fait dans les océans et dans la mer. Et donc, comment les récupérer? Bon, bah alors là, ça vous demandera un effort supplémentaire. Là, dans le cadre du haut, il y avait juste à ramasser un caillou. Là, il faut quand même aller un petit peu à la pêche et à la récolte au plancton. Alors, bon, dans le plancton, vous avez en fait toute la partie, je dirais, animale, hein, qu'on appelle le zooplancton, qui se nourrit finalement. Qui se nourrit de quoi? Eh bien, elle se nourrit de, justement, de tout ce qui se trouve dans le phytoplancton. Et là, vous avez une multitude d'organismes marins qui servent justement de nourriture. Alors parmi eux, vous avez les algues vertes, les dinoflagellés. Les dinoflagellés, ce n'est pas une très bonne nourriture parce qu'en général, ils sont toxiques. Et puis vous avez les fameux coccolithes dont je vous ai parlé, les cyanobactéries, les algues bleues, et une grande majorité de diatomées dans le phytoplancton. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est le premier maillon, ce phytoplancton, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne alimentaire qui produit 50% du carbone organique. Donc vous voyez déjà le critère, je dirais, d'utilité. Alors, les diatomées, ce sont des cellules eucaryotes qui sont entourées par un exosquelette en silice, donc une cage en silice. Donc c'est de la silice, ce n'est pas un verre, même si des fois, les gens disent que c'est un verre, mais c'est plus dans un but de communication, mais c'est de la silice hydratée, en fait. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 200 000 espèces différentes, dont les tailles varient typiquement de 1 micron à 500 microns. Et vous voyez toutes ces superbes photos, ces superbes morphologies, il y en a un grand nombre qui sont génétiquement contrôlées. Alors, au niveau donc du domaine scientifique qui concerne les diatomées, l'une des premières personnes à avoir observé finalement une structure du diatomée, c'est un commerçant et savant néerlandais, comme quoi il fallait quand même avoir de l'argent pour faire de la science à l'époque, mais je crois que ça n'a pas changé. Qui en fait, avec les améliorations justement des premiers microscopes, donc là ça me permet de mettre un petit peu le point sur l'importance de développer en permanence des méthodologies de plus en plus performantes, même si aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, ça vous paraît quelque chose de dépassé, mais à l'époque, c'était important. Donc, observation d'une structure de diatomée. Ensuite, vous avez des contributions de zoologistes allemands, hein, Nitsch et Ehrenberg, pour l'essentiel, qui ont déjà écrit les premiers ouvrages sur les diatomées dans les années, au début des années 1800. Alors, la connaissance quantitative et qualitative des diatomées s'est énormément améliorée, je dirais, a explosé au moment des grandes expéditions océanographiques du 19e siècle. En particulier, je cite les expéditions menées par quelqu'un qui est relativement connu, Charles Darwin, et également Ernst Haeckel. Et c'est également le moment, vous savez, où des gens comme Alexandre von Humboldt a également fait énormément de voyages océanographiques, mais s'intéressait lui à d'autres parties de la faune et de la flore que les diatomées. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un superbe ouvrage qui s'appelle « Les arpenteurs du monde », que je vous conseille de lire, qui est en fait l'histoire de von Humboldt et de Gauss, le mathématicien, en parallèle. Et en fait, c'est l'évolution de quelqu'un qui voyage par le corps et la tête, et quelqu'un qui voyage beaucoup par la tête, la personne qui fait des maths. Et c'est un livre que je vous conseille qui est vraiment superbe. Bon, ça, c'était simplement une petite digression. Donc, une grande évolution. Et en particulier, vous voyez, des gens comme Ernst Haeckel ont écrit et ont fait pas mal de planches qui sont absolument magnifiques, vous voyez, qui reportent finalement les découvertes, les observations qui ont été faites justement au cours de ces voyages océanographiques. Alors, le nom, finalement, de diatomée, en fait, c'est Augustin Pyrame de Candolle, hein, qui a donné le nom au bacillario fissé de diatomée, simplement en utilisant un terme grec, diatomos, qui veut être coupé en deux. Parce que quand vous regardez une diatomée, vous voyez, en fait, ça ressemble à une petite boîte, avec la boîte, le contenu et son couvercle, hein, et typiquement ce qu'on appelle le frustule de silice, hein, peut être séparé en deux parties, je dirais, le haut de la boîte, le couvercle, qui est l'épithèque, et le bas de la boîte, qui est l'hypothèque. Et donc, en fonction, évidemment, de cette morphologie un peu particulière de ces microalgues, eh bien, le nom fut donné. Alors, là, une des qualités principales, je dirais, des diatomées, c'est que ce sont des microalgues photosynthétiques. Donc ce sont des micro-organismes qui transforment finalement, sous irradiation lumineuse, le gaz carbonique et l'eau en sucre, en carbohydrate ou en oxygène. Et vous avez, je dirais, d'autres catégories de micro-algues et de diatomées qui, au lieu de fournir essentiellement des carbohydrates vont justement fournir, par exemple, des protéines ou des lipides, et ça sera intéressant de les utiliser. Mais au niveau de l'acte premier de la photosynthèse, ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes-là produisent en fait des quantités de matière organique très importantes, hein, des sucres, à partir du CO2. Alors cette cage de silice, elle assure pour l'essentiel, d'une part, une protection. Ça, c'est la protection grâce à la mécanique vis-à-vis des prédateurs. Elle doit être transparente puisque ce sont des microalgues qui utilisent en fait la photosynthèse. Et également, elles sont poreuses simplement pour régler les aspects métaboliques. Alors, au niveau des chiffres, vous voyez, ces diatomées supportent 50% de la production exportée de carbone dans l'océan mondial. C'est colossal. Donc, quand je disais « elles sont utiles », elles sont plus qu'utiles, produisent un quart de l'oxygène que nous respirons, et elles constituent la majeure partie du phytoplancton, lacustre et marin, 40%. Donc vraiment, elles ont un rôle absolument, je dirais, indispensable. Donc ce sont des organismes clés dans la pompe biologique du CO2, et alors avec des formes tout à fait extraordinaires, hein, des formes variées, et qui ont inspiré, je dirais, non seulement les botanistes, mais également un certain nombre d'artistes, et je vous montrerai quelques exemples à la fin de cet exposé. Alors, les diatomées peuvent vivre, je dirais, isolées ou en tribu, hein, elles forment également des colonies, mais lorsque l'on regarde en fait un petit peu plus en détail comment est composée une diatomée, vous avez la partie cellulaire, vous avez en fait les deux couvercles de la boîte en silice, des valves, et puis vous avez une ceinture, le cingulum, qui se trouve autour. Et ce qui est intéressant dans ces diatomées, c'est que finalement, elles excrètent en permanence de la matière organique, hein, qui sont donc des substances mucilagineuses, sous forme, en fait, en fonction de ce qu'elles veulent faire, je dirais, de tubes, de fibrilles, de pédoncules, ou également d'adhésifs. Ça leur permet de former des colonies, ça leur permet de se retenir par rapport au milieu, ça leur permet également d'avoir une meilleure flottaison, puisque la silice, globalement, c'est quand même a priori plus dense que l'eau, et donc ça leur permet justement d'assurer ce genre de fonction, et pour certaines, ça leur assure une certaine mobilité. Ce que j'ai trouvé dans la littérature, ce sont des mobilités qui sont aux alentours de 7 cm par heure. Alors une diatomée, ça fait quelques microns, donc essayez de transcrire 7 cm par heure pour une entité de quelques microns, et vous voyez que ça va faire pour un homme... J'irai des vitesses de placement de, j'irai au minimum de quelques dizaines de kilomètres heure, donc c'est déjà non négligeable. Alors également, cette substance, sécrétée, leur permet la protection vis-à-vis de certains prédateurs et également d'éviter la dessiccation, parce que je vous ai dit que les diatomées, également, on pouvait les trouver dans des terres qui étaient simplement humides. Donc en fait, c'est un moyen finalement de protection et de stabilisation. Alors, les diatomées, il y a deux groupes principaux, je dirais, pour faire simple, en fonction de la symétrie globale, en fait, de la coque du silice. Donc, celles qui ont une symétrie bilatérale, que l'on appelle donc les pénales ou les pennées. Donc, vous avez toute une famille, vous voyez, donc, voici une autre photo qui vous montre un peu la beauté de ces objets-là. Hein. Donc, à nouveau, ce sont des systèmes allongés du type pénale ou pennée, avec une symétrie axiale. Et finalement, la notion de symétrie et d'espèce va être importante. Je vous en parlerai dans quelques exemples vers la fin, justement pour contrôler le niveau de pollution des eaux. Alors, la deuxième grande famille, ce sont les centrales ou centriques, celles qui présentent, vous voyez, une symétrie radiale avec à nouveau des milliers et des milliers d'espèces. Alors, une des caractéristiques importantes, finalement, de cet exosquelette de silice, c'est que cette porosité se présente sous forme d'une porosité hiérarchique. C'est-à-dire que vous avez une distribution par niveau de la taille des pores qui vont de l'ordre du micron à l'ordre de, j'irais, quelques dizaines de nanomètres pour les plus petits. Alors, voilà une image qui va vous permettre de mieux voir, en fait, donc on descend au niveau de la résolution, on augmente la résolution, vous voyez là on est à une échelle d'un micron, on descend à nouveau, vous voyez, au niveau de la résolution, et donc on voit en fait toute cette porosité interne, Et si l'on descend à nouveau dans la porosité, eh bien on voit que les murs sont constitués eux-mêmes, ça se voit peut-être pas très bien de loin, mais de petits granules, de petites particules, qui elles-mêmes en fait ont une porosité, je dirais, intergranulaire. Alors ce sont les caractéristiques de nombreux matériaux du vivant, hein. C'est cette facilité et cette facilité fonctionnelle qu'ont les matériaux du vivant à créer finalement assez facilement, beaucoup plus facilement que ce qu'on arrive à faire au niveau synthétique, des matériaux à structure hiérarchique. Alors justement, ces pores dans les diatomées peuvent se trouver soit les pores les plus petits vers l'extérieur, vous voyez comme dans le cas présent, enfin ce sont des diatomées de la catégorie des coccinodissus, donc là les pores les plus petits sont à l'extérieur, ou bien vous pouvez vous retrouver avec des diatomées pour lesquelles les plus grands pores sont vers l'extérieur. Et ça dépend essentiellement de l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, on retrouve des quantités plus importantes de diatomées avec des pores vers l'extérieur dans les environnements turbulents, parce que justement, il y a une pression finalement du milieu, il faut arriver à se nourrir et à faire une absorption très rapide. Donc en fait, il faut avoir simplement une bouche, je dirais, pour simplifier, beaucoup plus largement ouverte. Alors maintenant, comment se reproduisent en fait ces diatomées? Eh bien, il y a deux modes de reproduction. Je dirais un mode par division ou par mitose ou par reproduction sexuée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, bon, on part donc du frustule avec les deux parties de la boîte, l'épithèque et l'hypothèque. Et donc, vous allez scinder cette boîte en deux, créer deux cellules mères, et ensuite vous allez avoir à reformer, c'est ce que fait la diatomée, à reformer, vous voyez, c'est parti en jaune, à reformer les deuxièmes parties de la boîte, hein, donc former une nouvelle hypothèque. Mais ce que vous voyez ici, ce qui paraît assez évident, c'est qu'à chaque fois, vous conservez finalement la partie qui est formée et la partie qui rentre à l'intérieur de la boîte. Et donc ça va entraîner finalement un certain nombre de conséquences vis-à-vis de la reproduction. Alors ces temps de reproduction par mitose dépendent énormément des types de diatomées, mais globalement ce sont des temps relativement courts, qui peuvent prendre, vous voyez, dans des diatomées pénales du type Navicula, des temps de l'ordre de 15 minutes pour recréer finalement la coquille en silice, alors que pour des diatomées du type central. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils ont appelé ça pseudo-nana. Hein? Et donc, avec des constantes de temps de quelques heures. Donc ça, c'est... voilà, par exemple, un exemple de diatomée en cours de mitose. Alors, il y a eu des méthodologies et des technologies qui ont permis de bien avancer dans la compréhension, justement, des mécanismes de mitose et qui permettent de bien les visualiser, en particulier en utilisant la fluorescence. Ce que vous voyez sur ce transparent, c'est la fluorescence des deux cellules, je dirais des parties organiques de la cellule, hein, qui fluorescent naturellement en rouge, et la silice qui est nouvelle, en fait, qui va permettre de former, après la mitose, la deuxième partie de la boîte, hein, elle est marquée par, cette silice est marquée par un colorant vert, c'est ce que vous voyez ici, vous voyez bien qu'entre les deux cellules qui sont en cours de séparation, vous avez une forte fluorescence verte qui devient de plus en plus intense, et vous voyez très nettement, en fait, ce que vous voyez ici sur un cliché de microscopie électronique, ça vous permet de le visualiser de façon, je dirais, beaucoup plus évidente et de faire, finalement, des suivis en temps réel. Alors ça, c'est une image que je trouve assez jolie, qui m'a été prêtée par Pascal Lopez, qui travaille à l'ENS Paris, qui est donc un biologiste, qui est spécialiste des diatomées. Et alors là, vous avez un système de diatomées en cours de mitose, avec trois types de coloration. Bon, vous avez à nouveau le chloroplaste, qui est coloré en rouge, naturellement. Vous avez la couleur caractéristique du noyau, coloré avec du bleu d'api. Et vous avez ici la silice qui est en cours de formation, qui a été coloré finalement par un organocylane en partie, dopé avec un organophyllane porteur d'un colorant. Donc ça, ce sont des choses qui permettent de vraiment suivre en temps réel, de voir vraiment l'évolution et la formation de ce type de cellules. Ça, c'est une autre photo qui vous montre finalement la reproduction des diatomées en cours, en fait. À nouveau, donc celle-ci, c'est une photo d'une diatomée pénale qui m'a également été donnée par Pascal Lopez. Donc là, c'est un peu particulier, en fait. Vous voyez, vous avez déjà deux cellules jumelles, hein, et vous avez en fait l'extérieur de la deuxième coque qui est en train de se former ici, ce genre d'étude est basé sur le même type de coloration, donc du rouge pour le chloroplaste, et puis la silice qui arrive nouvelle pour former, la frustule, et est martiée en verte grâce à un colorant organocellulé. Alors, je vous disais, ça a une importance dans la reproduction, tout simplement parce que si vous suivez, vous partez d'une diatomée mère, par exemple, et que vous avez une première séparation, vous voyez que vous allez reformer les couvercles de la petite boîte, mais à l'intérieur, ce qui veut dire qu'au bout de quelques générations, eh bien, vous avez une cascade vous descendez au niveau de la taille, les systèmes deviennent de plus en plus petits, et lorsque en fait, ces tailles atteignent à peu près 30% de la taille initiale, à ce moment-là, vous avez un passage à la reproduction sexuée. Et donc, en fait, si je résume un petit peu le mode de reproduction du diatomée, donc ça se fait en mitose. Je vous ai montré un petit peu simplement comment ça se faisait. Mais la taille dans ces cycles-là continue à diminuer de génération en génération. Quand on arrive à une certaine taille, à ce moment-là, vous avez en fait couplage entre deux diatomées, formation de gamètes et relargage de sperme, et vous avez une reproduction sexuée qui permet de revenir à des tailles, les tailles maximum en fait, que l'on trouve dans le cycle de diatomée. Alors, cette silice, la silice qui recouvre la diatomée, qui lui donne finalement ses morphologies, ses structures qui sont absolument magnifiques, et en fait, c'est un hybride. C'est un composite constitué de silice hydraté et de biopolymères, hein, donc avec un certain degré de condensation sur la silice. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la partie biopolymère? Ce que l'on trouve, ce sont des polyamines à longue chaîne qui, dans les conditions de pH dans lesquelles la diatomée vit et se reproduit, c'est-à-dire typiquement entre 7 et 8, 8 dans l'eau de mer, sont forcément des polyamines qui vont être cationiques, hein, qui vont être protonées. Vous avez également des silafines, donc des polypeptides qui vont être un peu particuliers, donc qui sont huitériniques parce que sur certaines fonctions, en particulier sur les fonctions lysines, elles portent en fait ces polyamines, à nouveau des polyamines, et sur les fonctions sérines, elles sont phosphatées. Donc en fait, cet aspect huitérionique va permettre finalement de réaliser des processus d'auto-assemblage, je reviendrai là-dessus. Et puis, pour compliquer un peu l'affaire, vous avez également d'optides de polypeptides qui, eux, sont simplement porteurs de groupes phosphatés. Alors, ce qui rend finalement les modes de synthèse, de biosynthèse particulièrement difficiles, c'est que là, je vous ai montré trois exemples, mais vous êtes vraiment dans le monde de la complexité biologique. En fait, ce sont des familles de biomolécules, des familles de polyamines, de silafines et de siladines qui, en fait, jouent en cascade pour construire, finalement, ce genre d'architecture. Alors, le processus de synthèse, finalement, de la partie siliciée, de la partie SiO2, bon, c'est quelque chose qui est assez connu, dont on en a déjà discuté de nombreuses fois. Le précurseur, en fait, c'est de la chimie douce, hein, c'est de la polycondensation minérale. Le précurseur, c'est de l'acide silicique, voyez, qui, via des réactions de condensation, hein, on élimine une molécule d'eau, on ferme des petits dimères et on continue. Ça, c'est typiquement, de nombreux cours sur lesquels je me suis déjà exprimé. On obtient, via ce genre de réaction de polycondensation à température ambiante, des systèmes nanoparticulaires, typiquement, de silice, en fonction des conditions de chimie que l'on utilise. Alors, au niveau de la biennalisation, il faut en plus, je dirais, créer des structures hiérarchiques, forcément créer également des systèmes qui peuvent générer via des réactions d'auto-assemblage ou des séparations de phases, justement ces porosités. Alors, simplement pour vous donner une idée, c'est ce qui va amener un petit peu les problèmes dans la discussion suivante. La solubilité de l'acide silicique dans les conditions de pH habituelles, c'est ce que vous voyez dans cette courbe-là. Vous voyez, typiquement, on va être dans ces pH-là. Eh bien, elle est de l'ordre de 2 millimolaires. C'est-à-dire qu'à des concentrations plus élevées, vous commencez à polymériser l'acide silicique. Bon, ça, ce sont les concentrations de silicium ou d'acide silicique dans les mers, dans les rivières et dans les lacs. Vous voyez, on est largement en dessous de la concentration en acide silicique. Les concentrations qui ont été mesurées de silicium intracellulaire, donc à l'intérieur de la cellule, la plupart sont entre 20 millimolaires et 100 millimolaires. Donc là, vous voyez, il y a un saut, il y a un gap, en fait, dans la concentration. Alors, si on regarde un petit peu ce qui est connu, de façon assez simpliste, je dirais, de résumer un petit peu comment ça peut se passer, en fait, vous avez... À l'extérieur de la cellule, hein, ce carré représente la cellule, ça représente la membrane cellulaire. Vous avez finalement de l'acide silicique qui a une concentration relativement faible, et vous avez également une pénétration possible via des canaux de transport du silicium. Donc là, il y a différentes études, différents modèles en fonction des diatomées. Donc ça peut être par exemple des canaux où l'acide silicique est complexé à des glutamines et c'est associé également à du cotransport de sodium. Et donc l'acide silicique rentre en fait dans la cellule et là, la concentration moyenne de l'acide silicique, eh bien, elle se trouve à, je dirais, 20 voire 50 fois la concentration qui lui permet de rester soluble. Donc, il y a un premier point, c'est que cet acide silicique, il faut qu'il soit stabilisé. Donc, soit il est stabilisé par un certain nombre de moyens dont je vais discuter dans la suite. Ensuite, il doit être, dans le mécanisme, il est transporté vers des vésicules de déposition de silice, et dans lesquelles, finalement, ces vésicules correspondent à une silice qui a déjà polymérisé. Puis ces SDV en fait, sont transportés jusqu'à l'interface de la cellule pour créer finalement ce fructosyl. Mais donc il y a quand même toute une partie, je dirais, encore mal comprise, pour être très honnête, sur finalement le mode de transport de l'acide silicique à l'intérieur de la cellule, d'une part, à cause de ces problèmes de concentration, et également le mode, je dirais, de construction. Il y a des modèles, je ne vous en montrerai un, mais on est loin d'avoir tout compris, sur le mode de construction de ces agrégats de silice qui forment finalement ces structures de silice poreuse hiérarchiques. Alors, si je reprends le schéma de base, on part de cette entité-là qu'on connaît bien. Ensuite, il y a une internalisation dans la cellule. Le mécanisme d'internalisation, ça, on connaît bien. La stabilisation de l'acide silicique à ces concentrations-là, là, on est un petit peu plus dans l'obscurité aujourd'hui. Je n'ai rien vu de vraiment convaincant. Ensuite, vous avez le passage en SDV. Ça, c'est à peu près admis, à peu près bien compris. Ensuite, vous avez la construction, finalement, du fructosyl de silice, une structure qui va être à la fois poreuse et à la fois avec des pores de différentes tailles, donc une structure qui va être hiérarchique. Alors, ce qu'il faut voir également, c'est que les études sont faites sur différents types de diatomées avec des vitesses des différentes diatomées. Ça veut dire que la génétique est différente. Ça veut dire que les compositions des polyamines, des silafines, des sélacidines vont être variables. Et en plus, il va y avoir des mélanges. Il ne va pas y avoir une molécule, ça serait trop simple. Hein. Et avec des diatomées dont les vitesses de réplication, donc il y a des aspects cinétiques, hein, vont de 15 minutes à quelques heures, voire un petit peu plus. Hein. Donc là, une des premières questions qui se pose, c'est la fameuse stabilisation du silicium à des concentrations élevées. Alors, quelles sont les hypothèses qui ont été faites et que l'on peut faire? Eh bien, il y en a un certain nombre que j'ai mentionné sur ce transparent. On peut penser à la formation de complexes hypercoordonnés du silicium, qui, en général, sont des systèmes qui sont un peu inhibés au niveau de la condensation et qui permettent d'obtenir des solubilités plus grandes. Bon, on connaît dans la littérature du silicium complexé par des polyphénols ou bien par des acétylacétones, etc. Donc ça, il y a des données, je dirais, au niveau de la synthèse. Également, on peut imaginer que l'on forme des oligomères organosiliciques. Donc on condense ces systèmes-là, mais il faudrait encore les stabiliser. Et donc ces systèmes organosiliciques ou mono- ou disiliciques peuvent être éventuellement stabilisés. Comment ? Par exemple, puisque ces systèmes, dans les conditions de pH dans lesquelles ils se forment, vont être des systèmes anioniques, on peut imaginer tout simplement que par cryptation avec des ammoniums, certains ammoniums des polyamines, c'est un système qui pourrait marcher. Ça, c'est une possibilité. D'ailleurs, ça fait penser, pour ceux qui connaissent bien, ça fait penser un petit peu au mode d'interaction qu'on a entre les ammoniums et dans la synthèse des zéolithes. Il y a clairement un parallèle entre ces modes de stabilisation, ce qu'on imagine au niveau des modes de stabilisation, et ce que l'on voit dans la synthèse des zéolithes. Tout le monde sait que les templates, les templates qui donnent les plus belles zéolithes aujourd'hui, ce sont des ammoniums et voire des polyammoniums. Donc de mon point de vue, ça n'a pas été vu dans la littérature, mais il y a sans doute un parallèle. Et puis on peut avoir de la silice précondensée, stabilisée à nouveau, puisqu'elle va être négative, par des polyamines et des fonctions ammonium. Alors ça peut donner tout ça comme possibilité, donc le complexe hypercoordiné, de l'acide silicique ou en fait le premier oligomère de condensation avec, vous voyez, une stabilisation par une espèce de cryptation par des ammoniums, ou bien simplement ce sont des nanoparticules de silice qui ont déjà précondensé et elles sont également stabilisées ou ségrégées, vous allez voir, par justement la présence de ces biopolymères. Alors, là, je vais vous montrer une étude de RMN du silicium 29. Pourquoi ? Parce que la silice, donc dans SiO2, il y a Si, et il y a un des deux isotopes du silicium 29 qui a la bonne qualité, qui a la vertu de porter un spin nucléaire. Et donc, grâce à cela, on peut faire de la résonance magnétique nucléaire. Alors, je vous fais simplement un petit rappel sur la RMN du silicium. Vous avez deux isotopes. Le plus abondant, le silicium 28, il n'y a pas de spin nucléaire, donc pas de RMN. Ensuite, vous avez le deuxième plus abondant, je parle évidemment que des isotopes qui sont stables, le silicium 29, qui tourne autour de 5% au niveau de l'abondance, et lui a le bon goût, je dirais, d'avoir un spin nucléaire qui vaut 1,5, et qui rend la réponse en résonance magnétique nucléaire possible. Alors là, ce que vous voyez, c'est typiquement un spectre de résonance magnétique nucléaire du solide qui est fait à partir donc de la polycondensation de silice. Alors ce que l'on voit en général, vous voyez, ce sont des pics, des massifs. Alors bon, ce n'est pas très très résolutif la RMN du silicium, ça c'est une des limitations, mais on voit en fait quand le silicium est attaché à deux pattes libres et puis deux autres ponts vis-à-vis du silicium, donc qui est de plus en plus condensé quand on va de la gauche vers la droite. Donc là, on voit du silicium entouré de trois voisins, puis de quatre voisins. Donc ça, c'est très connu dans la littérature. Il y a beaucoup d'analyses qui se basent là-dessus. La difficulté que l'on a, vous voyez, dans ces analyses, c'est que finalement, sur une séquence de RMN, je dirais classique, la résolution n'est pas extraordinaire. Donc on peut faire un peu de jouer un petit peu avec des méthodologies du type CP pour voir un petit peu ce qui monte et ce qui descend, pour voir la proximité des protons. Mais malgré tout, la résolution n'est pas énorme. Alors, les espèces moléculaires, les acides siliciques et disiliciques, vous voyez, sortiraient dans cette zone-là. C'est là qu'on les attend. Et puis, les siliciums hypervalents, c'est-à-dire avec des coordonnées élevées, sortiraient plutôt dans cette zone-là. Alors, des siliciums hypervalents, ce qu'il faut savoir, c'est que, en général, on n'en trouve pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que ce sont les états des transitions, donc des états un peu excités, je dirais, ce sont les états de transition des réactions de polycondensation minérale, d'une part. Deuxième point, on va les trouver dans des structures très très ioniques. Je vous donne un exemple. Si vous regardez, par exemple, la RMN du silicium de certains phosphates de silicium, SiHPO4 deux fois, vous allez vous retrouver avec un silicium qui va avoir le bon goût d'être dans cette zone-là, qui va être hexacoordiné. Et puis également, si on s'éloigne finalement des conditions de la chimie douce, justement quand on travaille sur la formation de silicates sous pression et haute température, et sous pression, eh bien, on sait très bien, Georges Callas pourrait vous le dire, que bon, finalement, les tapis hypercoordonnés du silicium, c'est quelque chose dans ce domaine qui est relativement classique, mais pas dans des conditions douces et pas dans des conditions, je dirais, de chimie à température ambiante. Alors là, c'est une étude qui a été faite par une équipe allemande que je trouve assez intéressante. Ils ont pris le temps et il fallait. Alors voilà comment elle est. C'est une étude, c'est un suivi finalement de la formation des frustules de silice en fonction du temps. Alors comment cette étude a été construite? Dans un premier temps, on nourrit des diatomées avec, vous voyez, de l'isotope Si28, pas de spin. Donc on crée toute une famille, toute une colonie de diatomées, nourrie essentiellement avec une réponse négative au niveau de la RMN, puisqu'on n'a pas de spin. Donc ça veut dire que déjà la ligne de base va être à zéro. Dans un deuxième temps, ce qu'on fait cette équipe, dans un deuxième temps, on les fait jeûner, puis on les réalimente avec une source d'acide silicique, mais cette fois-ci totalement enrichi ou très fortement enrichi en silicium 29. Donc la réponse RMN que l'on va voir va être la réponse RMN associée à ce qui est créé, à ce qui est neuf, à ce qui se fabrique. Hein. En plus, par rapport à d'autres études que j'ai trouvées beaucoup moins convaincantes, les expériences de RMN du solide sont faites à des températures auxquelles finalement vous avez l'intégralité des espèces. Vous n'avez pas des espèces mobiles dans un coin et des espèces moins mobiles dans un autre, qui est un des artefacts que vous pouvez avoir en RMN, c'est-à-dire que vous avez un magnifique spectre, mais vous n'analysez que 50% de la population parce que vous n'êtes pas dans les meilleures conditions. Alors ça donne ceci. Donc ça, je vous montre un spectre, mais ça a été fait à différents temps. Ce que l'on voit très clairement, c'est que la silice, vous le voyez, si on amplifie, on verra un tout petit peu d'acide silicique et du premier oligomère, mais en quantité infime. Mais l'essentiel de la silice se retrouve en fait dans un état qui est déjà condensé. Alors l'état de condensation va dépendre du temps, bien entendu, mais dès le départ, à des temps très courts, de l'ordre de la dizaine de minutes, vous avez déjà finalement la silice, en fait, vous avez déjà formation de petites particules de silice qui sont, de mon point de vue, sans doute stabilisées par des polyamines, par des ammoniums, mais en fait, ce ne sont pas des états hypervalents du silicium. Clairement, on devrait avoir des réponses sur les temps courts qui se trouvent en fait dans ces zones-là, et ces zones-là sont relativement vierges. Alors donc ce que je vous dis, c'est qu'ensuite, vous pouvez mesurer l'évolution de la polymérisation, c'est-à-dire ça, c'est le Q4, c'est ce qui est le plus polymérisé, le Q3 un petit peu moins, etc. Donc vous mesurez les rapports de raies et donc vous pouvez voir, en fait, suivre l'évolution des différentes parties, des degrés de condensation de la silice. Hein. Donc la première silice formée au niveau de la ceinture, vous voyez, vous trouvez des rapports de condensation relativement faibles, alors que vous trouvez des rapports beaucoup plus élevés lorsque vous intégrez l'ensemble du frustule. Hein. Je vous rappelle que le degré moyen de condensation de la coque de silice, une fois que le processus est complètement terminé, se trouve aux alentours de 2,2. Hein, c'est ce que vous avez à peu près ici dans ces données. Donc ça m'a l'air déjà d'être une analyse qui est beaucoup plus cohérente. Mais maintenant, quand on replace ça dans le contexte des biopolymères, de ce qu'il y a comme biopolymères qui sont assez accessible pour former justement ces phases hybrides, et bien là, justement, à cause de la multiplicité, le travail, devient plus difficile à analyser. Alors, ce qu'on est obligé de faire dans ce cas-là, c'est de faire des études in vitro, de regarder finalement, en isolant en fait des polyamines ou des silafines ou des silacidines, de regarder finalement comment se comportent les processus de polymérisation de précurseurs d'acide silicique en fonction de ces biopolymères. En particulier, lorsque vous augmentez le rapport silacidine sur polyamine, ça vous permet in vitro, j'insiste bien in vitro, de contrôler très facilement le diamètre des nanosphères de silice que vous formez. Donc là, on sent que c'est un des leviers possibles pour arriver à créer justement ces espèces nanoparticulaires. Ah, là, j'ai une disparition du signal, mais ce n'est pas très grave. Donc par contre, in vitro, il y a différents tests qui sont assez intéressants, c'est-à-dire que lorsque vous couplez des polyamines et des phosphates, vous avez à nouveau la formation de nanoparticules de silice de façon très rapide. Par contre, lorsque vous utilisez des silafines synthétiques, lorsqu'il y a dans le carré blanc, normalement, je vous dis ce qu'il y a, des silafines synthétiques sans phosphate, eh bien à ce moment-là, vous n'avez pas de précipitation de la silice. Et des silafines synthétiques non polyaminées, mais avec des phosphates, vous n'avez pas de précipitation. Donc ce qu'il faut en fait, par contre, polyamine simple, sans silafine, dans un tamposphosphate, à ce moment-là, vous avez une précipitation très rapide de la silice sous forme de particules, et à nouveau, vous pouvez contrôler la cinétique de formation de ces tout petits objets en contrôlant le rapport entre les phosphates et les polyamines, et également, ça vous contrôle la taille. Donc on peut penser qu'il y a une piste qu'il faut continuer à explorer de ce côté-là. Alors en fait, vous voyez, ça c'est simplement un exemple qui vous montre l'évolution, vous voyez, du diamètre de particules de silice précipitées en présence de polyamine et de phosphate en fonction de la concentration en phosphate. Donc vous voyez, non seulement vous avez une évolution finalement au niveau cinétique, mais également vous avez facilement un contrôle de la taille. Hein. Donc on sent très bien, même si on n'a pas, je dirais, toutes les preuves et toutes les données expérimentales, qu'il y a une relation directe finalement entre les rapports entre les polyamines et les groupements phosphatés, portés ou non par les silafines, dans le contrôle finalement de la taille et de la morphologie des objets. Alors si je reviens sur les aspects porosité et structure hiérarchique, vous voyez, ça c'est à nouveau une frustule de diatomée. Donc si on regarde là, vous voyez, on va trouver en fait des pores qui vont être de plus en plus petits. Alors il y a différents modèles en fait qui ont été proposés, basés sur les études que je vous ai montrées à la fois de RMN et de microscopie électronique. Et si on veut essayer d'avoir une vue simpliste, voilà ce qu'on peut proposer. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a une cascade de séparation de phase ou de réaction d'auto-assemblage qui va dépendre finalement beaucoup de la composition du milieu pour une diatomée donnée. Donc vous pouvez avoir, par exemple, la formation donc, de couples polyamène-silafine, de certains agrégats sur lesquels la silice va pouvoir condenser, ou des agrégats plus complexes, des agrégats à base de silafine régulatrice. Et donc vous pouvez très facilement, en jouant finalement sur ces couplages de polyélectrolytes, en fait, parce que ça revient à ça, sur la taille en fait, des gabarits qui vont permettre à la silice, en fait, qui vont être enrobés par la silice pour former finalement ces structures poreuses à structure hiérarchique. Donc ça doit donner, vous voyez, à nouveau, modèle très simpliste, donc des murs, vous voyez, de silice en noir avec des pores de tailles différentes, dont la taille va être gérée essentiellement par l'agrégat que vous allez former. Cet agrégat, sa composition, va dépendre de ce qui va être sélectionné au niveau des biopolymères. Et je dirais que c'est même un petit peu plus complexe que ça, parce que finalement, ce ne sont pas des agrégats basés simplement de biopolymères. Il y a également des inclusions de silice, parce que la silice polymérisée, c'est un polyélectrolyte également, hein, qui viennent perturber le tout. Alors, il y a des modèles qui ont été proposés exactement en suivant cette démarche. Là, ce que vous voyez, ce sont les porosités observées de 2 microns à 300 nanomètres par microscopie électronique à balayage. Vous voyez, vous avez des grands hexagones, puis ensuite vous avez une deuxième formation de silice, puis ensuite une troisième formation pour finir sur ces tout petits trous. Et en fait, les modèles qui sont proposés par ce groupe de chercheurs allemands sont basés en fait sur une cascade de séparation de phase qui part de l'échelle micro pour arriver à l'échelle nanométrique avec des micro-gouttelettes organiques composé de X polyamine, Y silafine ou Z silacidine. Donc c'est ça qui rend le système complexe, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas bien à séparer finalement. Je pense qu'il y a toute une recherche à faire en physico-chimie colloïdale, simplement en utilisant ce genre de molécules comme template, et de regarder un petit peu quels sont les objets, comment on les stabilise et ce qu'on peut en obtenir. Donc ça, ce sont les modèles qui aujourd'hui sont proposés pour construire certaines diatomées, en particulier pour expliquer la structure poreuse hiérarchique de ces coquilles, de ces frustules de silice. Alors, La diatomée, je vous ai dit, bon, c'est quelque chose de beau, mais c'est quelque chose, vous voyez, malgré en fait mon effort de simplification, vous avez bien senti que c'était quand même des systèmes qui étaient assez complexes. En fait, la construction de ces objets-là, ce n'est pas tout simple, mais ce sont des objets qui sont assez utiles. En particulier, ce sont d'excellents capteurs de l'état de pollution des cours d'eau. Hein, donc, en fait, je vais vous montrer rapidement comment ça peut être fait. Donc, finalement, en analysant les diatomées, les espèces de diatomées qui sont dans les cours d'eau, eh bien, bon, il y a eu des études à la fois faites par le CEMAGREF et qui ont été normalisées, vous voyez, par l'AFNOR en 2000 puis 2007, qui permettent d'évaluer un indice biologique des diatomées, hein, pour tester finalement l'état de pollution ou de non-pollution des eaux de rivière en particulier. Alors, ce test, il est basé sur l'observation suivante, en fait. Lorsque vous avez une rivière non polluée, finalement, vous avez une très très large distribution de diatomées, à la fois pénale et à la fois centrale. Mais vous voyez que vous avez, en fait, des diatomées, je dirais, des petites boîtes de camembert ou des petites tourelles de ce type, vous voyez, en grand nombre. Et vous n'avez que quelques pénales très très allongées, que quelques aiguilles. Et donc, les études biologiques montrent en fait que ces diatomées ici, les plus centrales, les plus rondes, sont polluosensibles, alors que ces diatomées très allongées, ce qu'on appelle des diatomées polluotolérantes, donc supportent beaucoup plus facilement les états de pollution des cours d'eau. Alors ça donne quoi? Eh bien, ça donne que ensuite, en analysant avec le microscope et puis en des programmes de statistiques, eh bien, vous voyez des rivières légèrement polluées, vous avez une augmentation des espèces allongées, puis une diminution, je dirais, des petites rondes. Et puis dans une rivière fortement polluée, à ce moment-là, vous avez essentiellement des diatomées en forme de peigne. Donc ça, c'est une vue peut-être très simpliste, mais ça vous explique comment, ensuite, avec des programmes de statistiques, on peut remonter finalement à une analyse fiable, une analyse totalement fiable du degré de pollution des cours d'eau. Alors ça, c'est la carte pour la Bretagne. Donc, amis pêcheurs, choisissez vos cours d'eau. Typiquement, les bons et très bons au niveau donc, de la non-pollution, c'est ce qu'il y a en vert et en bleu. On voit qu'il y en a un certain nombre. Mais il y a quand même un certain nombre de cours d'eau qui sont moyens et puis quelques-uns qui sont, je dirais, un petit peu déconseillés, soit pour la baignade, soit pour la pêche. Donc ça se fait au niveau français, mais ça se fait également au niveau du Canada, des États-Unis. C'est le type de test que l'on retrouve, en fait, dans de nombreux pays. Alors, une des utilisations également des diatomées, en fait, c'est au cours des affinages d'huîtres. Finalement, ces diatomées servent de nourriture dans les parcs à huîtres, et c'est ce qui donne ces superbes couleurs-là, ces petites couleurs bleues là, qui vous mettent très souvent en appétit. En fait, c'est associé à la couleur, en fait, c'est une diatomée qu'on appelle la navicule bleue qui donne cette coloration. Alors, la production de diatomées peut être faite également par aquaculture, donc soit au niveau du laboratoire, comme vous voyez ici à gauche, soit au niveau industriel. Alors, comme ce sont des systèmes qui se reproduisent très vite, eh bien, une cellule, d'une part, génère, vous voyez, 10 puissance 8 cellules en un mois, ce qui est assez important, et donc ce qui veut dire que vous pouvez produire très facilement par ce genre de méthode, vous voyez, la taille des cuves n'est pas extraordinairement grande, des quantités de diatomées par aquaculture avec des taux de production qui sont de l'ordre de 10 kg par jour. Alors en plus, eh bien, vous pouvez sélectionner certaines familles, certaines catégories de diatomées, parce que finalement, leur réponse photosynthétique, par exemple, ne va pas être la même. On va pouvoir ajuster la réponse photosynthétique. En particulier, la photosynthèse, je reviens là-dessus, c'est la transformation du CO2 et de l'eau en molécules organiques, en biopolymères organiques d'intérêt. Donc on peut, bon, le cas classique, c'est de formation de carbohydrates, mais en sélectionnant certaines diatomées, eh bien, on peut faire des protéines ou on peut également favoriser la formation de lipides. Et donc ça va être intéressant parce que ça va être un moyen de former des biofuels en utilisant les diatomées qui a priori ne sont pas coûteuses, que l'on peut produire dans des conditions, dans des grandes quantités, est raisonnable. Et d'ailleurs, il y a une cimenterie à Gargenville, hein, qui a déjà fait une installation pilote, et donc qui récupère finalement le CO2 et le transforme en biofuel en utilisant justement des microalgues du phytoplancton. Donc ça ouvre un certain nombre de possibilités, même si ça reste, je dirais pour l'instant, à l'échelle du pilote, mais l'idée me paraît assez séduisante. Alors les diatomées sont également utilisées, ça c'est des transparents que j'ai récupéré, Jacques Livage m'a donné, qui est un grand amateur des diatomées, en criminologie simplement parce que ben, vous avez des tas d'espèces qui dépendent finalement de leur milieu, d'une part, et puis que la répartition, je dirais, dans le corps humain va dépendre en fait du temps, de l'état de la personne qui s'est noyée, est-ce qu'elle a été noyée avant ou après. Donc ça permet finalement, au niveau criminologie, de faire des avancées en fait sur le diagnostic. Hein. Donc ça a déjà été utilisé et ça continue à être utilisé dans la plupart des cas de noyade, je dirais, un peu louche. Alors, au niveau donc des diatomées, hein, si je reviens un petit peu sur leur histoire, ce sont des micro-algues qui sont arrivées, je dirais, au tout début de l'ère primaire, l'ère secondaire, pardon, et puis qui ont fossilisé. Les plus grandes, je dirais, carrières de diatomées fossilisées, vous les trouvez, vous voyez, avec des anciennetés qui, typiquement, remontent à 150, 185 millions d'années. Ça, donc, les dates, c'est typiquement Crétacé-Jurassique, hein, avec des variétés importantes. Ça, ce sont des diatomées fossiles, hein, que vous pouvez observer si vous vous promenez le long des falaises, pas sur la falaise, mais le long des falaises d'Étretat, bon, qui sont des composites. À nouveau, vous allez trouver des zones en fait, qui sont faites de coccolites, hein, de carbonate de calcium, hein, c'est ce que je vous ai montré au début de l'exposé. Également, vous avez des zones qui, elles, sont riches, finalement, en diatomées fossiles. Et donc ça, c'est une des utilisations importantes aujourd'hui des diatomées, c'est leur aspect fossile, en fait. Vous trouvez en fait des diatomées fossiles qu'on appelle diatomites, terre de diatomées, cellites, bon, il y a différents types de noms. Vous voyez, vous en trouvez à la fois aux États-Unis et au Mexique, en Europe et en France, en Chine, vous voyez, vous avez de très importants gisements. Donc en France, par exemple, la production en France de diatomées fossiles, c'est 230 000 tonnes par an, donc ce n'est pas négligeable. Donc ça, c'est un site d'exploitation qui se trouve à Auxillac-Foufouillou, en Auvergne. Hein. Donc ça, c'est pour la France. Alors au niveau donc, mondial, la plus grande mine, en fait, pour le gisement de diatomées marines se trouve en Californie, dans la région de Santa Barbara, et donc... Vous voyez, bon, c'est la photo que j'ai trouvée qui n'est pas très très belle, mais qui vous donne un petit peu l'ampleur en fait de ce type de gisement. Et là, la production, si maintenant on regarde la production mondiale de diatomites en fait ou de terre de diatomées, elle est de l'ordre de 1,8 million de tonnes par an. Et donc, c'est du matériau pas cher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matériaux-là ? Ben, ils sont déjà utilisés, puisque vous avez vu que ce sont des matériaux poreux, de silice. Donc, a priori, d'après ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est de la silice. Si vous avez bien retenu, chimie douce, donc pas toxique, elle est faite à température ambiante, etc. Donc c'est celle qui présente les conditions de toxicité moindres, je dirais. Donc, et puis en plus, ce sont des matériaux à très haute porosité. Donc on peut s'en servir comme isolant, comme charge en fait, dans des plastiques, comme abrasif, antiparasite ou insecticide. Donc il y a déjà toute une série de propriétés qui leur permettent finalement d'être commercialisées sous ces différentes formes. Alors il y a une grande utilisation en fait des diatomées fossiles, c'est pour tout ce qui est filtration, hein, que ce soit filtration de la bière, des piscines, du vin. Alors en plus, pourquoi c'est intéressant ? Bon, évidemment, c'est pas coûteux, mais pour ceux qui ont fait de la filtration, pour les chimistes qui ont fait de la filtration sur, par exemple, je vous prends un exemple que vous connaissez peut-être. Lorsque vous fabriquez un antibiotique, vous le créez en faisant un mou. Vous avez un mou et vous, par fermentation, vous obtenez l'antibiotique. La deuxième étape, c'est l'extraction de l'antibiotique par rapport à son milieu de synthèse. Donc là, en général, ce que vous utilisez, c'est des tas de colonnes d'extraction et vous passez dans des milieux solvants variés. Ça peut être, le solvant peut être éventuellement l'eau, mais en général, ce sont des solvants non miscibles à l'eau, puisqu'il faut arriver à séparer les phases, et donc il faut que ça décante. Alors, en général, pour l'avoir fait il y a de nombreuses années, ce que vous, quand vous, observez, vous récupérez cet antibiotique ou ce composé, eh bien, il est très fortement coloré, parce que simplement, ben, vous avez des colorations qui viennent de déchets organiques qui existent dans le milieu réactionnel associé au mou. Et donc, une des méthodes pas très chères, et même pas très coûteuses, pour justement rendre la couleur blanche aux fameux antibiotiques, c'est simplement de le passer, cette solution, sur du noir de carbone. Sauf que le noir de carbone, c'est superbe, parce que ça absorbe la coloration de façon magnifique, mais ça bouche tous les types de filtres, donc c'est une horreur. Donc ce que l'on peut faire, et ce qui est fait, là, je peux vous le dire, c'est qu'on va mélanger avec du noir de carbone cette solution d'antibiotique, la coloration va rentrer dans le noir de carbone, et ensuite on va mélanger l'ensemble avec de la diatomite. Et on va filtrer l'ensemble, le noir de carbone va venir s'imprégner dans la diatomite, et on va filtrer l'ensemble, et ça va nous permettre, au niveau industriel, de mieux ajuster les nombres de Darcy, pour ceux qui veulent regarder un peu les aspects théoriques, et je dirais tout simplement d'éviter les colmatages. Donc ça, c'est une des utilisations. Et puis également, quand on a des roches qui ont une tenue mécanique raisonnable et puis une faible densité, eh bien, éventuellement, avec des pores, ça veut dire qu'au niveau phonique, ça peut également apporter des choses au niveau de l'isolation, eh bien, on peut en faire des éléments de construction. Et ça, c'est ce qui a été fait. Vous voyez le dôme de la cathédrale Sainte-Sophie à Istanbul ou à Constantinople. Hein. En 532, le dôme a été construit finalement avec des roches de diatomite. Alors là, je vais finir mon exposé dans quelques minutes en vous montrant simplement que ces diatomées, ces superbes diatomées qui sont vraiment également des objets d'art, bon, suscite à la fois l'admiration de très grands scientifiques comme Darwin, eh bien, soulève quelques questionnements, je dirais, c'est plutôt au niveau du questionnement sur la présence ou la vie d'extraterrestres, et inspire surtout les artistes. Alors, en ce qui concerne Darwin, si vous lisez l'origine des espèces, eh bien, vous allez trouver cette phrase qui a été écrite en 1859, donc, il y a peu d'objets plus admirables que les délicates enveloppes siliceuses des diatomées. Ont-elles donc été créées pour que l'homme puisse les examiner et les admirer en se servant des plus forts, alors là, c'est, on voit le côté scientifique quand même qui arrive, en se servant des plus forts grossissements d'un microscope. Donc ça, c'était pour le scientifique. Pour l'aspect, je dirais, extraterrestre, alors, il y a un certain nombre d'articles qui viennent de paraître là, en 2013, dans le Journal of Cosmology, donc l'un des auteurs principaux est ce professeur de mathématiques qui a la direction d'un centre d'astrobiologie à Buckingham, en Angleterre. Donc il y a eu une pluie de météorites en décembre 2012, et donc ce qu'ils ont fait, ils ont récupéré les météorites, et d'après ce qui est écrit dans l'article, ils ont analysé finalement ce qu'il y avait à cœur dans le météorite. Donc pas la surface du météorite, ce qu'il y avait à cœur. Et alors, ce qu'ils ont trouvé à cœur, c'est ceci, vous voyez. À cœur, eh ben, on trouve des objets qui ressemblent de loin, vous voyez, à des diatomées, mais même si on a le courage de grossir, on est quand même très très près de diatomées. Donc en fait, je ne dirais pas que ça ouvre une voie, mais en tous les cas, ça soulève au moins une question. Est-ce que l'expérience a été faite correctement? Est-ce que c'est de la pollution ou pas de la pollution? Mais en tous les cas, ça soulève une question. Hein? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant au niveau de la petite histoire, c'est que c'est Chandra Vikramasinghe qui est dans ce mode de réflexion. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a quand même toutes les origines culturelles qui font qu'on ne voit pas forcément tous les choses de la même façon. Et alors, il y a un deuxième article où, en fait, ils ont fait des analyses de fragments de frusules de diatomées qui proviennent de la stratosphère à des hauteurs, d'après l'analyse de l'article, à des hauteurs de l'ordre de 27 km où il n'y a a priori pas de pollution terrestre. Et à nouveau, ils ont retrouvé finalement, vous voyez, des objets de type diatomée, qui correspondent à des diatomées, l'analyse en silice, etc., et la forme. Donc ça soulève simplement, je dirais, c'est une anecdote pour moi, ça soulève une question, mais qu'on ne peut pas éluder. Alors, pour terminer, je vous ai dit que les diatomées sont une source d'inspiration également pour les artistes. Donc, ce Klaus Kemp est un biologiste anglais qui, je dirais, au moment de la retraite, s'est fortement passionné pour les diatomées. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il les isole sous microscope électronique et il les positionne sur le microscope pour faire des tableaux. Un peu comme à l'époque victorienne, pour ceux qui ont vu les planches, les fameuses planches de l'époque victorienne. Alors voilà ce que ça peut donner, vous voyez. Ce sont des compositions de diatomées. Moi, je trouve ça assez joli, hein. Alors donc, et ça, tout ça, c'est fait sous microscope. C'est une très jolie occupation, je trouve. Donc, vous voyez ce que ça peut donner, hein. Voilà ce que ça peut donner. Vous voyez, ce sont des compositions magnifiques. Alors, les diatomées, bon, il est clair que ce sont des objets indispensables et très utiles, ne serait-ce que quand on regarde les cycles du CO2. Et puis, il y a des utilités, je dirais, au niveau appliqué. Je vous ai montré les plus évidentes à base utilisant la diatomite. Je vous en montrerai un certain nombre la semaine prochaine en parlant plus de l'utilisation de ces objets dans le cadre des nanotechnologies. Mais ce sont quand même toujours, au niveau des mécanismes de construction, vous l'avez bien senti dans mon exposé, même si on a avancé dans la sélection des différents biopolymères qui peuvent être engagés dans les modes de construction, même s'il y a eu quelques superbes études de spectroscopie RMN, ce sont encore des étoiles qui sont inaccessibles au niveau de la compréhension du mode de construction. Donc c'est un domaine, à mon avis, qui mérite de la recherche, peut-être difficile à financer, vu l'évolution actuelle des choses, mais je pense que c'est quand même un domaine absolument merveilleux. Donc voilà ma dernière diapositive. Donc, qui vous montre à nouveau une construction de M. Kemp, hein, sous microscope. Donc, la semaine prochaine, je vous parlerai un peu plus de nanosciences et de nanotechnologie en utilisant finalement ces objets et déjà leur structure hiérarchique, leur grande porosité pour construire. Vous allez voir des matériaux, des devices avec un certain nombre de propriétés. Alors, je vous rappelle que le 17 mars, il va y avoir un séminaire. Ouvert à tout le monde, hein, avec un certain nombre d'interventions très très variées autour de l'interface chimie des matériaux, biologie et médecine. Et également, vous voyez, cette année, vous allez être particulièrement gâtés sur l'aspect interface matériaux et médecine. Vous avez un colloque qui est organisé par Patrick Couvreur, qui a lieu en mai au Collège de France, où essentiellement le colloque va être centré sur les nanomédicaments et l'utilisation des nanomédicaments pour traiter les maladies graves. Voilà, je vous remercie de votre attention.